trace-migration.org. Donc c'est à prix libre, c'est du 26 au 29 septembre. Donc Théâtre de l'Élysée, Lyon-Guillotière. Donc c'est les rencontres à Lyon-Guillotière, c'est tout à prix libre, donc ça c'est plutôt pas mal. Du 25 au 29 septembre, c'est Images migrantes. Donc c'est tout un calendrier avec tout un tas de choses qui se passent, des films d'atelier, des films documentaires, voilà, ateliers de recherche, prise de parole et d'images pour la journée de ce soir. Pour demain, journée comment raconter les migrations, images clandestines, c'est à partir de 11h jusqu'à 21h, le dernier court-métrage. C'est un long film, ce qui fait 1h40 et qui date de 75. Ah oui, bah oui, c'est Dupont-Lajoie, bah, je le connais ce film, étranger dans l'histoire du cinéma populaire français. Effectivement, et juste avant, à 17h30, la métaphore de l'île Coropa et l'escale, c'est 19 minutes, et puis le film L'escale, c'est 1h40. Voilà, enfin, je vous laisse regarder le détail, il y a des choses qui viennent de France, de Suisse, et même des Pays-Bas, le dimanche 29 septembre, et c'est de 11h, et le dernier film à 20h30. On a vraiment toute la journée. S'il y en a qui aiment le cinéma, vous allez voir le Théâtre de l'Élysée. Et puis si il fait encore bon et vous préférez aller vous promener dans le Beaujolais, ben, il y a Saint-Jean-des-Vignes, c'est ce week-end. Je les ai reçus, donc je fais un coucou d'ailleurs à Joris et Fonzi qui étaient là l'autre jour, qui sont les organisateurs, qui sont très sympathiques. Le Champ des Pierres, c'est le 27, 28 et 29 septembre, Saint-Jean-des-Vignes. Donc ça commence ce soir avec des concerts, de l'art de la rue, l'animation et des enfants. Donc www.eclecnopopulas.fr, et c'est aussi à prix libre. J'aime beaucoup cet accès à tout public. Voilà, j'ai vraiment envie d'encourager d'abord ça en priorité. Au moins, on peut, en fonction de nos bourses, on peut quand même y aller. C'est quand même chouette. 3 jours de spectacle sous chapiteau et en extérieur pour petits et grands. Donc ce soir, ça commence à partir de 19h. Il y a 8 groupes qui passent et c'est aussi très éclectique puisqu'il y a du blues, de la chanson, de l'hardcordéon. Voilà. Ça c'est quand même et je vous promets que ça vaut le détour. Je crois qu'ils viennent de Belgique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du calypso manto, du rock psyché, de l'ethio hip-hop et de la tech hip-rock. Le samedi, c'est à partir de 13h, spectacle, animation, atelier, et à partir de 19h, pareil, au moins 8 groupes. Et le dimanche 29, à partir de midi, spectacle, animation, atelier, championnat international de chaises musicales. Alors ça, j'aimerais voir ça. Et puis des groupes, et le camping est gratuit aussi, avec des produits locaux. Donc Saint-Jean-des-Vignes, ça fait la transition avec l'info suivante. Vous avez des invitations pour 2 personnes pour aller goûter du vin au Salon du Vin. C'est le 36e édition Vino Media. C'est le 11, 12 et 13 octobre à l'espace Tête d'Or, voilà, 103 boulevard de la bataille de Stalingrad à Villeurbanne. Donc c'est à côté du théâtre de la Tête d'Or. Donc on peut déguster, vous avez des sommeliers qui vous donnent quelques conseils. Donc bienvenue à nos 3 invités, Oriane, Yanis, Yanis, tu es éditeur, et Oriane, dessinatrice, et vous allez me dire le nom de votre édition de bande dessinée, peut-être qu'il y en a un.
Alors c'est la collection RVB. Et donc la collection RVB, c'est une collection de bandes dessinées numériques, c'est-à-dire que c'est des bandes dessinées qui se lisent, mais qui se lisent sur un écran. Et l'idée de base de la collection, c'est d'utiliser l'écran comme un endroit où on peut faire des objets qui se lisent comme un livre, mais qui utilisent un peu des fonctionnalités de l'écran, et donc qui soient pas juste des livres adaptés sur un écran, mais vraiment des œuvres faites pour un écran. Voilà.
Alors pour vous présenter, Oriane, donc une des dessinatrices. Mm-hmm.
Oui, bah moi j'ai déjà créé un ouvrage. Bon, on parle pas de livre numérique du coup parce qu'on essaie de s'éloigner justement de la transposition un peu basique de scan de page, mais vraiment de concevoir des choses qui sont faites exprès pour l'écran. Donc j'ai déjà conçu un ouvrage dans la collection RVB qui s'appelle Sylvie pour la caisse 5, qui est une sorte d'errance dans un supermarché en déliquescence. Voilà.
Vous venez aujourd'hui pour un appel à dons, ouais, pour soutenir cette édition.
Tout à fait. Pour l'instant, on a sorti quatre ouvrages. On en sort deux nouveaux bientôt. Puis on aimerait bien en faire d'autres. Et on aimerait aussi beaucoup pouvoir proposer une offre d'abonnement. C'est-à-dire qu'on aimerait que les gens puissent s'abonner à toute la collection pour un prix pas trop cher. Et du coup, d'avoir un peu une sorte d'entrée, une porte d'entrée dans ce petit monde qu'on essaye de créer. Et pour ça, on a besoin d'aide parce que ça coûte de l'argent de développer des fonctions sur des applications. Parce qu'évidemment, on ne fait pas ça nous-mêmes avec nos petits doigts. On a besoin de le faire. Et donc pour ça, on a créé on a fait un crowdfunding sur Ulule. Et ça s'appelle... on propose aux gens de devenir grand fondateur de la collection RVB.
Ok, voilà. Bon, on va rentrer dans les détails dans quelques instants. Je vais laisser la parole à Julien pour qu'il nous présente le Chalala. Donc tu es le nouveau comédien, on va dire, par rapport à Héloïse. Et tu as commencé quand dans la troupe du Chalala?
Bonjour.
Bonjour Julien.
J'ai pas eu le temps de dire bonjour. je suis arrivé en septembre dernier, donc pas en septembre là, mais septembre d'avant. Donc voilà.
Je te connaissais comme musicien et maintenant comédien. Tu as toujours la double casquette ou as démarré
Oui, bien sûr, je continue à faire beaucoup de musique, encore même dans le contexte du Chalala.
Oui, parce qu'il y a les événements du mercredi.
Il y a effectivement les événements du mercredi, oui, dont on peut parler. D'ailleurs, on peut peut-être attaquer par ça.
Allez, événements surprises, vous arrivez dans un bar et d'un tout à coup... peut surgir de la musique, du texte.
Écoute, je vais faire le parallèle, si tu veux bien, avec ce dont tu parlais juste un peu précédemment. Quand tu faisais un petit peu le tour des événements que tu avais trouvé, qui étaient sympas, effectivement, le mercredi est complètement dans cette lignée-là, puisque, effectivement, le principe est d'avoir du spectacle divers, avec... pas la saison, hein, mais diversifié. Je précise pour que les gens viennent pas nécessairement en doudoune. S'il fait chaud, vous pouvez venir en short, pas de problème. Le principe de la soirée est effectivement d'être là, on est entre copains, on boit des coups, on mange un bout. Je précise que les falafels sont faits maison, donc bousculez-vous à la porte pour venir les goûter.
Et c'est juste à côté, c'est Montée de la Grande Côte.
C'est Montée de la Grande Côte, tout à fait.
À côté de la radio.
Ah, exactement. Et donc du coup, toutes les demi-heures, on a une dizaine de minutes de spectacle. Donc le bar devient vraiment un lieu de spectacle. On a la pénombre, une petite lumière qui s'allume, et parfois on a un sketch, parfois on a du stand-up, de la comédie, on a du poème, on a de la musique, on a de la chanson, on a du mime, on a de la magie, on a de l'hypnose.
Ça, je ne savais pas.
Voilà. On a, en fait, ça dépend vraiment des soirées, des thématiques possibles.
Venez hypnotiser sur tout chaque mercredi au Chalala. Alors, le Chalala, c'était une chanson de Claude François, non?
Oui, ça a été une chanson de beaucoup de gens. Je suis. Ça marche là?
Oui, yes, ça marche. On t'entend bien.
Ok, super. C'était effectivement une chanson de beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est assez rigolo devant le Chalala quand les gens passent chacun à son Chalala. Parfois, c'est un Chalala référence, donc un référence à une chanson que les gens connaissent. Parfois, ils l'inventent. Et c'est vraiment assez drôle d'être dans le lieu quand le lieu est fermé. Parce qu'en fait, on a du silence dans le lieu, donc on entend ce qui se passe dehors et on entend les gens qui passent et qui font chacun un peu leur Chalala. Ils voient marqué Chalala, ils se mettent à chanter des trucs. C'est pas toujours impeccable, c'est pas toujours une référence. Certains sont très créatifs. C'est récréatif.
Et toi, t'as ton Chalala, Julien, tant que musicien?
Oui, j'en ai beaucoup trop. Je ne sais plus lequel choisir, je suis obligé de tous les passer en revue. C'est le Chalala, le nom a été choisi en référence à l'international de Manon Solo. Voilà, c'est l'origine du nom est un hommage à cette chanson.
D'accord, ça,
voilà. Pas du tout par rapport à Claude François.
C'est parce que j'avais vu le 45 tours.
Et oui, on l'a effectivement. T'imagines bien qu'on nous fait quelques petits cadeaux par rapport à ça de temps en temps. On a effectivement une pochette de CD qui traîne avec marqué Chalala en énorme, mais c'est pas nécessairement de là qu'arrive le truc. Et donc du coup, effectivement, pour terminer sur ces histoires de mercredi et faire le lien avec ce que tu disais avant, ce sont des soirées qui sont à prix libre, avec un chapeau qui est là et les gens mettent ce qu'ils veulent dedans. C'est un bon moyen de rencontrer le lieu parce que c'est un soir où toute l'équipe est là, de manière générale. Et on présente beaucoup de petites créations maison. On a des heures de création qui sont dédiées à ces bars à spectacle. Donc on a du format court, hein. Essentiellement c'est des sketchs de 5-7 minutes, parfois moins. On a des petites pastilles, des fois de 2 minutes. Et c'est l'occasion d'inviter tous nos copains comédiens, les copains assez proches, en fait, au final, hein, c'est des gens avec qui on passe plutôt l'année, même s'ils sont nombreux, et donc du coup ça tourne. L'année dernière, on a eu énormément d'Adi et Charlie qui ont été là sur beaucoup de soirées, puisqu'en plus de ça, ils avaient la création de leur spectacle dans les murs, en tout cas la fin de la création, et ils ont joué leur spectacle chez nous pendant un mois. Tous les dimanches, ou tous les samedis même, en fait, tous les samedis. Et donc ils ont été là aussi sur les mercredis, donc on pouvait côtoyer Charlie en vrai, en chair et en os, de près, pendant le bar à spectacle. C'était juste génial. Et puis on a tout un tas d'autres comédiens qui viennent en nous disant: tiens, j'ai bossé un monologue, je l'ai coupé en deux, je peux le faire en trois parties, machin, ça rentre. Et puis voilà, donc c'est l'occasion de rencontrer plein de copains, pour ceux qui ont un peu la fibre artistique. C'est l'occasion de boire des coups avec plein de gens différents, de danseurs, de musiciens, de tout ce qu'on veut. Et puis c'est l'occasion aussi pour ceux qui viennent en tant que spectateurs de les côtoyer d'un peu près. C'est assez drôle de voir des moments où les gens sont à table, ils sont en train de discuter avec un mec qu'ils connaissent pas du tout. Et puis au bout d'un moment, moi je viens chercher le mec, parce qu'il faut qu'il joue, en fait. Et du coup je vais chercher, je dis: c'est à toi. Et les gens: comment ça, c'est à lui? Et le mec se lève et puis hop, il fait un truc super sur scène et il vient se rasseoir et les gens sont là: mais ok, d'accord. Donc voilà, donc ça fait une proximité facile, ça fait un truc bon enfant entre copains, et voilà, c'est un peu l'ambiance. Donc ce sont des soirées où on a une programmation, ce n'est pas un open mic, tout simplement parce qu'on a quand même une ligne artistique au Chalala et qu'on aime bien s'assurer que ce qui passe sur notre scène est bel et bien en adéquation avec ce qu'on propose. Donc ce n'est pas un open mic, mais bel et bien une programmation, mais c'est très éclectique. Voilà, pour ce qui est des mercredis, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je peux passer au jeudi.
Alors sur la programmation, oui.
Ouais.
Parce qu'il y a des nouveautés, donc c'était...
Oui, effectivement, il y a des nouveautés, on va y venir. Je fais juste un petit crochet sur les jeudis, parce que j'y étais encore hier soir et que c'est absolument incroyable ce qu'on nous propose au Chalala le jeudi soir, puisque nous avons l'équipe BIS qui est là, qui est une équipe d'improvisation et qui propose des formes diverses en fonction des jeudis. On a des catchs où là c'est des équipes d'impro qui s'affrontent, on a plein d'autres formes qui sont proposées par l'équipe BIS. Et j'y étais encore hier soir, et vraiment, je veux dire, je ne fais pas partie de l'équipe BIS, c'est la seule programmation extérieure que nous ayons réellement en fixe. Venez, c'est juste incroyable, il faut les voir faire une fois, parce que c'est complètement déroutant. On a vraiment l'impression que c'est un tour de magie, en fait. Moi je redeviens un gamin dès que je vois l'équipe BIS, quoi. C'est fou, dans l'instant ils sont capables de créer un univers, il y a un film qui se déroule devant nous, les répliques sont irréprochables, on se croirait vraiment devant quelque chose de préparé depuis des années. Non, c'est tout improvisé, je vous le conseille fortement. Et puis ensuite on vient effectivement aux créations chez Lala. Puisque nous avons été très sérieux, nous avons très bien travaillé et nous avons pas mal écrit n'importe quoi, et ça se passe plutôt très très bien. On vous a concocté une rentrée des classes,
donc un truc déjanté,
c'est complètement déjanté, c'est un défilé de profs tous plus allumés les uns que les autres, chacun à sa façon, et donc du coup c'est une véritable immersion dans la rentrée des classes. On côtoie le CPE, il y a des élèves avant dans le bar, parce que là c'est un peu notre recette, c'est de commencer les spectacles dans le bar, puis ensuite d'aller dans la salle. Donc effectivement il y a le CPE qui intervient, tout un tas d'autres personnages que je vous laisserai venir découvrir. Tout ça est construit sur un squelette assez ingénieux, où on a notre cher Maxence Fontaine qui s'occupe de nous pondre des squelettes tous plus déjantés les uns que les autres. C'est une comédie assez moderne, voilà, et puis on arrive à faire une véritable immersion sans prendre le risque du malaise, parce que c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal au Chalala, à faire intervenir les gens sur le plateau. C'est pas un truc qui nous fait trop rêver, on préfère les surprendre par d'autres biais, et je crois qu'on s'est pas mal débrouillé sur le coup. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe en première partie de soirée, c'est une aventure, c'est une expérience.
Donc ça c'est le vendredi
et le samedi.
Et le samedi ?
Oui, c'est le vendredi et le samedi jusqu'à la fin du mois d'octobre.
Le
nouveau spectacle s'intitule Rentrée de secours.
Rentrée de secours, donc ça démarre ce soir ?
Ça a démarré déjà il y a...
La semaine dernière ?
Voilà, c'est ça. Là, c'est la quatrième représentation. On en a déjà fait trois. En comptant l'avant-première.
Donc,
ça dépend comment tu
comptes. Le chalala est ouvert à partir de quelle heure
Alors,
ce soir
le chalala est tout bleu, déjà. C'est le vert, c'est que l'entrée. Et c'est ouvert à partir de 18h. Si t'as raison, finalement, c'est ouvert, en fait. Hein. C'est ouvert à partir de 18h, mais c'est tout bleu dedans. Allez-y. Et c'est ouvert à 18h. On y mange, on y boit, il y a un peu de musique. Possiblement live parfois. Et donc, du coup, le spectacle est à 19h30. Et puis ensuite, on enchaîne en deuxième partie de soirée avec L'un n'empêche pas l'autre, qui est la comédie phare de la maison, avec Maxence et Héloïse, qui nous régalent d'une pièce qu'ils ont jouée quand même un petit paquet de fois et sur lequel ils commencent à avoir une adresse assez impeccable. C'est ciselé, c'est de la dentelle. Faut venir voir. C'est en termes de duo,
je vous le conseille,
ouais, en termes de binôme,
sur le plateau,
ouais, on est déjà sur du. Sur du solide.
Je vous parle en connaissance de cause.
Allez, voilà.
Je te laisse respirer deux secondes. Voilà, c'était une petite respiration musicale pour Julien du Chalala qui va nous présenter les dimanches donc du Chalala. Là, je voulais vous faire aussi découvrir à mes invités Yanis et Oriane et Julien. C'est le groupe Kitsch, c'est un groupe local. Donc, ils ont sorti un EP qui s'appelle Anger. Donc voilà, c'est juste un petit extrait, mais s'il y en a le temps, on repassera un autre passage de Kitsch. Alors, le chalala, les dimanches, qu'est-ce qui s'y passe ?
Eh bien, le dimanche, on se repose en faisant des spectacles, parce que quand même, on a... On a un peu ça dans la peau. Non, mais en fait, je te disais tout à l'heure, tu sais que sur les mercredis, on avait beaucoup de créations en interne. Et en fait, il se trouve que de ces créations, qui sont souvent des bribes de trucs qui peuvent être soit un sketch vraiment complet, soit une pastille, soit une idée, soit des bouts de JT aussi. On a ça dans la tête, on a envie de faire ça. Je crois que ça va se faire, ça va se faire cette année, à mon avis. Il va y avoir un JT chalala qui va émerger de tout ça. Et parfois, on a des bribes qui poussent. On a acheté une graine sur la droite et puis on se retrouve au bout d'un moment avec un bout de spectacle. Et puis en fait, au bout d'un moment d'avoir un bout de spectacle, on a carrément un trame qui se tisse. Et ces trucs-là qui sont un peu les rejets du bar à spectacle, les trucs qui nous a restés de côté, qui ont poussé tout seul dans leur coin, ben ça finit par faire des choses. Et ces choses-là, on les met en scène et on les joue les dimanches sous des formats, je dirais, mi-long ou mi-court. Je sais pas comment, en fonction de...
Ça dépend du point de vue.
Voilà. Et donc, c'est des formats de 40 minutes où on présente plein de choses. Moi, j'ai un seul en scène qui sera joué sur le mois d'octobre.
Comment s'appelle-t-il ?
Le titre du spectacle, je l'ai pas encore.
Ah, non, ça va vraiment tout fraîchement pêché, là, comme actualité.
Non, j'ai joué quasiment la totalité l'année dernière sur les bars à spectacle où je présentais des bouts. Donc j'ai pas encore le nom officiel, le personnage principal est seul d'ailleurs, s'appelle Pascal. Voilà, c'est un type qui a chopé une vilaine toux. Et c'est l'histoire d'un type qui a chopé une vilaine toux, et c'est 40 minutes de musique, théâtre, poème, texte, un truc un petit peu délirant. Il y a aussi... Thiel, qui est quelque chose qui a déjà joué l'an passé sur les dimanches, qui est le seul en scène de Guillaume, un des comédiens de l'équipe du coup, qui va présenter Thiel à un moment donné sur la saison. Il y aura aussi des invités avec pareil, des choses qui sont nées pendant les bars à spectacle, des collaborations qui sont nées au coin du comptoir en buvant une bière et puis qui terminent à finalement émerger sous cette forme-là, cette forme de 40 minutes. Parfois il y a un spectacle de programmé, parfois deux sur les dimanches. On est dans l'expérience hein, encore de ces dimanches-là, donc c'est un créneau qu'on ne connaît pas encore très bien sous cette forme-là. On l'a pratiqué un peu l'année dernière, ce créneau-là, mais pas beaucoup. Donc on va découvrir, et puis on va voir comment ça se fait, quoi. On espère qu'on aura du monde et que les gens auront envie de venir faire les fous avec nous le dimanche. Et pour ce qui est des gens qui sont plus matinales, le dimanche, vous pouvez retrouver nos spectacles pour enfants. Parce que quand même on a aussi une programmation pour les enfants, parce qu'on aime bien ça.
Pour les petits, pour les grands.
Pour les petits.
Vous avez pensé à tous les publics ?
Oui, on essaie de penser à tous les publics, à toutes les bourses. C'est un peu le but du jeu au chalala. Hein.
Et puis voilà. C'est surtout un accueil très chaleureux, toujours.
Alors ça, on nous en parle beaucoup et je dois t'avouer que on y fait un peu attention, mais que c'est quand même le truc le plus facile à faire pour nous, parce qu'on est à la maison. Pour de vrai, et du coup c'est pas un truc qu'on joue, c'est pas un truc qu'on surjoue, donc je sais que les gens en parlent pas mal, on a beaucoup ces retours là sur les critiques. Je t'avoue que pendant les réunions c'est pas un truc dont on parle, quoi. On parle beaucoup de ce qu'on va faire, après de comment on le fait, ça se fait plutôt naturellement, et oui je te l'accorde, il y a un truc assez famille là-dedans, mais voilà, c'est pas un sujet qui est facile à aborder, parce que j'ai l'impression que quand on l'aborde quelque part en soi on le dénature, tu vois ce que je veux dire, le fait d'en parler c'est comme si c'était un projet en soi, tu vois,
alors non, que nous non, c'est pas du tout, oui, c'est plus que... en termes de simplicité,
oui, c'est
et
ça.
De...
que toi tu
et
le dises, ça
convivialité.
Marche, ouais, ben ça c'est, je le ressens, mais pour moi c'est les gens qui font ce truc
voilà, après t'es pas obligé de faire commentaire, je te dis justement en tant que public, tu vois, t'es pas obligé de te justifier, je te donne mon sentiment de public en disant bah voilà, là on est bien, on se sent à l'aise. Les gens, même si vous avez une pression, vous faites deux spectacles, vous avez une pression entre les deux,
ouais,
vous faites le service entre les deux et vous gardez quand même le sourire.
Oui.
Et le temps d'écoute et d'échange pour les gens qui viennent au bar.
C'est
souvent,
vrai.
Même dans un bar où ils font que bar, et souvent, ils sont tellement speed que allez, au suivant, ça enchaîne.
Et
donc, faut maîtriser aussi une certaine capacité à tenir la pression. Entre les deux mains, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, on est entre les deux mains aussi, tu as raison.
Je trouve ça assez chouette, quoi.
Ouais. Ça me touche que t'en parles comme ça, et puis je pense que t'as raison, parce que moi c'est ce que je traverse aussi, mais je le ressens comme ça aussi, j'ai l'impression que les gens le ressentent comme ça aussi, et c'est marrant parce que des fois dans l'équation on sait pas qui instaure ça. Il y a l'équipe qui instaure ce truc là, mais on se dit des fois aussi qu'on a un filtre qui fait que les gens qui viennent, qui rentrent dans ce lieu, je sais pas quand est-ce que le boulot a été fait, est-ce que c'est sur la déco, est-ce que c'est sur la... Mais les gens sont hyper cool, quoi. Donc du coup, en fait, bah, malgré le fait qu'on court, il règne cette espèce d'ambiance-là un peu qui parfois aussi est contenue, hein, parce que t'imagines bien, comme tu le dis, on court beaucoup, donc on a toute la vérité de cette réalité-là, qui sont l'énergie, les tensions, les problèmes, le truc qui te lâche sur scène, et il faut que tu cours pour aller réparer le machin avant de jouer, tout ça, donc tout cet envers du décor-là existe, mais t'as raison, dans le décorum, il n'a pas sa place, et on arrive à garder quelque chose de très bon enfant dans le bar. Et c'est vrai que c'est un cadre de travail qui est quand même génial, ouais. Merci les gens.
C'est un élément d'accueil important, et puis le cadre est chouette avec ces espèces de mezzanine en déco avec la cheminée. Et ça joue.
T'es pas revenu depuis septembre ?
Oui.
On a repeint là-haut.
Ah d'accord.
Et du coup on a fait vraiment un petit bout de scène.
Il y a toujours la cheminée ou pas ?
Il y a toujours la cheminée, on l'allume quand il fait froid, on l'éteint quand il fait chaud. Avec de la lumière, il n'y a pas de bûche dedans. Mais...
Donc, pour résumer, pour les auditeurs, vous pouvez avoir des informations sur un site peut-être ou sur Facebook ?
Bien sûr, sur Facebook et sur notre site, les deux, lechalala.com et la page Facebook Chalala, tout simplement le Chalala peut-être. On n'est pas des gros pontes de la communication. Par contre, on essaie d'être sympa avec les gens et de leur filer les vraies infos. Donc, on n'est pas dithyrambique sur les photos et sur les selfies, etc. etc. On essaye de s'y mettre un peu, mais ce n'est pas notre fort. On fait de la com plutôt de bouche à oreille. On trouve que ça marche mieux,
et
la connexion.
Et jamais de...
Oui, ça va, ça marche plutôt très, très bien. Oui.
Oui, comme quoi, même sans technologie, on a des outils de communication naturels.
Les gens se disent les trucs, j'ai l'impression. Ouais. Et voilà, mais sinon, effectivement, ça existe et il y a toutes les informations nécessaires, y compris la possibilité de pouvoir faire en sorte que les gens puissent se procurer les bons cadeaux, les choses comme ça, parce que des fois, les gens, ils aiment bien pouvoir faire un cadeau en famille, ils offrent une soirée au Chalala, on a ces trucs-là qui sont accessibles en ligne. On a les pitchs des spectacles, les horaires, notre numéro de téléphone.
Nickel.
Et quelques blagues, quand même. Parce que c'est un peu ça qu'on fait.
Et pour la suite des blagues, et ben rendez-vous ce soir pour un truc apparemment déjanté.
Complet.
Celui-ci, je ne l'ai pas encore vu, j'ai hâte de le voir.
Ouais.
Et ben, j'embrasse toute l'équipe parce que je les apprécie beaucoup.
Yes, ils t'embrassent aussi en retour.
Merci beaucoup. Je te laisse filer parce qu'on avait dit 10 minutes. J'espère qu'ils ne t'attendent pas plus que ça. Et que voilà, tu leur diras que c'est de ma faute.
C'était trop agréable, j'ai été obligé de prendre mon temps.
Voilà. N'hésite pas, tu leur dis que c'est de ma faute.
Ça marche. Merci Delphine.
À ce soir.
À bientôt.
Salut Julien.
scratch. Its mouth been exposed. Think about that.
Le groupe Kitsch en direct donc de Radio Canu sur Patch World. Vous êtes sur le 102.2 et donc le groupe Kitsch, c'est un groupe à découvrir, c'est un groupe local. Je salue d'ailleurs Dany Boutin qui fait la guitare et les voix que je croise souvent. Et puis j'ai eu l'occasion de croiser aussi Adrien, Thomas et Léopold, les membres du groupe. Ils étaient venus présenter donc cet album Anger à découvrir. Vraiment, ils ont un site kitsch.officiel@gmail.com et vous pouvez les retrouver donc sur internet. Yannis et Oriane en direct sont les invités de Patchworld aujourd'hui pour parler de bande dessinée numérique. Alors comment ça se passe, Yannis? Tu fais l'édition donc sur ce projet.
Ouais, c'est un projet. Ouais, c'est un projet que j'ai monté à la base parce que je suis auteur puis j'avais envie de publier des bandes dessinées numériques. Je trouvais pas vraiment de structure d'édition où je pouvais faire ça avec tout ce que j'avais envie d'essayer sur un écran. Et puis après, j'ai discuté avec d'autres gens, entre autres Oriane, qui avait un petit peu envie d'explorer cette chose-là. Du coup, je me suis dit, allez, je vais monter une structure d'édition de bande dessinée numérique. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait. On est plus ou moins seul, plus ou moins presque.
Donc ça, c'est déjà visible sur Internet?
C'est déjà visible. On a sorti quatre ouvrages qu'on peut trouver en librairie, en fait, parce qu'on édite des cartes de code. C'est des cartes, des petites cartes en papier où il y a un petit code qu'on peut gratter. Et puis avec ce code, on peut créer une collection sur le site internet et puis charger un ouvrage, enfin l'ouvrage qu'on a acheté. Et puis le lire. Et puis alors là, à chaque fois qu'on a un ouvrage, c'est un système de lecture différent. Ce qui est intéressant, c'est que on peut travailler en tant qu'auteur, on peut travailler sur des formats de pages très très différents, et puis on peut passer d'un scroll vertical à un scroll horizontal, on peut avoir une grande carte avec des zones cliquables, on peut tout d'un coup, juste dans les formats déjà, dans les formats de nos images, avoir des choses très très différentes de ce qu'on ferait dans un livre, et qui se lisent très facilement, très spontanément. Et nous, c'était vraiment ça, je crois, qui nous intéressait aussi à la base de cette envie. il y avait un peu cette idée de faire quelque chose qui nous permette d'exploser un peu les formats et puis de créer des liens entre des histoires, d'avoir des histoires avec des structures un petit peu différentes, un petit peu plus complexes que la linéarité d'un livre, parce que à la base on vient du livre plutôt, mais voilà, du coup c'est là à chaque fois, pour chaque ouvrage, il y a des formes de lecture différentes pour l'instant. Par exemple, l'ouvrage que Coriane a fait, c'est une de nos premières publications, ça s'appelle Sylvie pour la caisse 5, et c'est une bande dessinée dans laquelle on arrive sur un supermarché, on arrive à l'entrée, et puis on va scroller dans le supermarché, et puis on va chercher des petites zones cliquables qui ont une teinte légèrement différente, et je crois, si je ne me trompe pas, le premier c'est un petit enfant, on clique sur un petit enfant, et puis... Et puis après, on arrive sur une petite bande dessinée qu'on lit en scroll vertical avec le petit enfant qui voit quelque chose dans le supermarché et il essaye de le montrer à sa maman, mais sa maman le voit pas. Voilà, et c'est un peu le point de départ de notre histoire. Après, on se balade dans ce supermarché, on croise plein de gens, on rencontre aussi justement Sylvie, qui était appelée à la caisse 5 dans le titre, et puis qui est pas loin du burn-out avec un manager horrible, et tout ça va s'envenimer pour partir un peu dans des bah, je vais pas raconter la fin, voilà, c'est un supermarché qui...
Ouais, en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette forme, c'est qu'on a un lieu dans lequel on va, qui va se déployer sur l'écran, dans lequel on va vraiment naviguer avec une espèce d'attention, avec plein de détails sur lesquels on va pouvoir s'attarder ou pas. Et ça permet de récolter au passage plein de scénettes différentes qui vont s'assembler. Il y en a qui sont voilà, juste des petites anecdotes, qui ne font pas forcément avancer le récit général, mais il y a quand même une trame aussi qui se construit au fur et à mesure sur tous ces personnages qui se croisent, avec voilà, une fin un peu, une sorte d'aboutissement du truc, mais il y a l'idée qu'on peut naviguer un peu librement, on peut lire les choses dans l'ordre ou pas, et du coup ça c'est un truc, c'est par exemple, moi je fais tous les dessins sur papier, parce que c'est ma façon de travailler, c'est ça, c'est aussi un rapport que j'apprécie, et on a exposé tous les originaux sur un mur, et ça tenait étonnamment bien, c'était assez agréable à lire comme ça. Mais par contre, à publier en livre, ce serait un casse-tête horrible. Du coup, c'est intéressant aussi de voir que le support numérique qui permet un type de lecture, ça peut aussi s'exposer, mais si ça devait être transcrit sur un format physique, ce serait une espèce de casse-tête à déplier et tout, qui serait horrible à concevoir, quoi. Donc y a plein de... ça amène aussi vers d'autres pistes, ce qui est chouette, ça ouvre des portes aussi.
C'était quelque chose que tu cherchais depuis longtemps, d'autres façons d'aborder, ou c'est parce que tu viens pas de la BD classique, du coup, dans ta formation, t'es partie d'éléments que tu avais intuitifs.
Je viens pas de la BD classique dans le sens où je me suis résolue à en faire quand j'ai compris que je pouvais le faire de la manière la plus libre possible. Et par exemple, qu'on n'était pas obligé de suivre le traditionnel schéma de la case, de la grille de la page aussi, parce que c'est un truc qu'on associe assez immédiatement à la bande dessinée, mais en fait il y a plein d'autres manières de le pratiquer. C'est une forme narrative qui peut aller dans des directions assez différentes. En fait, on peut le résumer, il y a plusieurs théoriciens qui ont des conceptions différentes, et c'est hyper intéressant de savoir ce qu'ils en pensent. Après, on peut le faire instinctivement aussi, puis ça c'est chouette, quoi. Mais donc oui, moi j'ai réussi aussi à faire de la bande dessinée à un moment où j'ai commencé à en faire sur un blog, plutôt que par exemple en me disant je vais faire un livre ou je vais faire un truc, ce qui est assez paralysant quand on veut faire quelque chose de trop gros.
Tu as toujours ton blog ? Il est visible ?
Il existe encore, mais ça doit faire 4 ans que je ne l'ai pas mis à jour. Voilà.
Mais il y a encore des petits trucs
oui,
à voir.
Oui, il y a encore des petits trucs.
Sinon, ta carte, donc, on la trouve dans quelle librairie ? Pas téléchargée avec le code.
Alors, je pense qu'on peut la trouver encore au Bal des Ardents, dont je ne connais pas par cœur l'adresse, mais qui est dans le premier arrondissement.
Qui est pas loin des terreaux.
Pas loin d'ici.
Tout à fait. Mais oui, normalement, ils ont toujours les cartes. C'est sorti il y a 1 an et demi, donc après, la vie d'un ouvrage en librairie, en général, elle n'est pas très longue non plus.
Alors, tu as la double casquette scénariste et dessinatrice.
Voilà.
Donc, tu as fait un double cursus aussi
Non, pas du tout. Comme on dit auteur de bande dessinée, je suis autrice de bande dessinée, qui est un féminin qui est de plus en plus accepté dans le milieu. Enfin, ça dépend par qui, mais bref. Et simplement, j'ai... Bah, c'est aussi un truc qui se fait beaucoup dans, dans la bande dessinée indépendante. Il y a peu ce duo habituel du scénariste-dessinateur. Il y a beaucoup de gens qui font tout. Et donc, après, moi, je ne me suis jamais posé trop la question. J'avais envie de faire comme ça. Et puis,
Je pense qu'on est beaucoup à trouver que la bande dessinée, c'est une sorte d'écriture qui mélange le texte et le dessin, mais où finalement le dessin, c'est une autre façon d'écrire et le texte, c'est une autre façon de décrire des situations. Et finalement, tout est mêlé, en fait. C'est une forme de récit dessiné. Et je pense qu'on est, on est des auteurs de bande dessinée. Et, voilà. Mm-hmm. Et puis, on fait les deux.
Oui, c'est complémentaire. Et puis ça s'entraîne l'un l'autre. Des fois, tu vas faire un dessin qui va t'amener un récit. Des fois, tu vas avoir un récit que tu veux mettre en dessin. Mais ça s'alimente et c'est ça qui est passionnant aussi.
Sur les thèmes, est-ce que tu sais comment tu les sélectionnes? Pourquoi, tiens, là, ça se passait... t'as choisi l'ambiance du supermarché. C'est lié à des anecdotes? C'est lié à des observations? C'est sortir du quotidien, quelque chose du quotidien?
Oui, c'est un truc que j'aime beaucoup, ouais, exactement. Regarder ce qui existe autour et puis aussi des fois juste dériver d'une chose banale pour en faire quelque chose d'un peu fantastique ou trouver du fantastique dans l'habituel. Enfin, il y a un peu ce truc-là. J'aime bien faire des choses un peu satiriques et exagérées à partir de choses qui sont réelles, qui sont banales, quoi. C'est un type d'humour que j'aime bien puis qui me vient comme ça. Donc après, j'essaye de le perfectionner, on va dire. Et le supermarché, simplement, je sais pas, l'idée c'est que quand Yanis a voulu lancer la collection RVB, on réfléchissait à faire les premiers ouvrages et il m'avait proposé du coup ce système donc d'une fresque dans laquelle on peut défiler, donc qui soit par exemple une rue dans laquelle on peut aller cliquer sur des fenêtres ou des portes pour voir rentrer à l'intérieur des trucs. Et donc je me disais, le supermarché c'est quand même un lieu dans lequel on peut se promener, où il se passe énormément de choses, où on peut mettre en scène plein de personnages. Enfin voilà, il y a un côté fascinant aussi à ces endroits qui sont... que les gens du marketing voudraient qu'ils soient telle chose, et en fait ils sont tout autre chose quoi, dans la réalité. Donc ça, je trouve ça assez chouette aussi.
Donc c'est toi qui crée avec, quand on dit la personne qui fait la mise en ligne ou sur l'écran, tu dis, bah tiens, là je veux qu'on se déplace comme ça, je veux qu'il y ait telle couleur ici pour cliquer dessus.
Alors,
comment ça
couleurs,
se... c'est ceux qui travaillent sur l'informatique qui choisissent et qui disent, ben voilà ce qu'on peut faire avec l'ordi sur l'écran.
Non, pour le coup, alors ça a été un peu des allers-retours entre les développeurs, Yanis et moi, puisque lui, l'éditeur, c'est un peu l'intermédiaire entre la technique et le travail artistique, quoi. Et donc, on avait discuté au préalable du type de format. Donc, je savais que j'allais faire une longue fresque avec des petits strips qui seraient lisibles autrement. Donc là, j'ai juste suivi plutôt une formule qui m'avait été donnée, ce qui ne sera pas forcément le cas pour mon prochain ouvrage que je vais faire avec la collection, qui, je pense, prendra d'autres formes. Et là, on va en discuter entre nous. Pour l'instant, c'est encore flou, mais ça va se construire.
Donc, c'est un échange collectif.
En gros, moi, ouais. Je vais dire à Yanis, j'aimerais bien faire ça. Il va me dire, je vais voir avec les développeurs ce qu'on peut faire. Il va revenir vers moi en me disant, on peut pas faire ça, mais on peut faire ça. Et c'était aussi hyper intéressant dans la construction de ce premier ouvrage que j'ai fait. C'est qu'il y a eu des limites techniques qui ont fait que mon récit a été construit d'une telle manière. Et au final, c'était hyper nourrissant aussi de se dire, si je peux pas faire ça, je dois trouver une solution pour que ça marche autrement. Et enfin voilà, je pense que ça a fait progresser aussi le truc...
Et ouais. Donc aujourd'hui, vous venez pour un appel aux dons, ce serait bien de sensibiliser
Mais oui, parce que...
ces auditeurs, vous pouvez déjà cliquer en même temps sur Internet pour voir ce qui se passe.
collection-rvb.com
Et sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, mais surtout en ce moment sur Ulule, on lance une campagne de crowdfunding pour... on aimerait développer un système d'abonnement, on aimerait proposer des abonnements, on aimerait que les gens puissent s'abonner pas seulement en achetant un récit en librairie, mais en s'abonnant à toute la collection pour découvrir tous les ouvrages de la collection, parce que là on a parlé de celui d'Oriane Lassus, Sylvie pour la caisse 5, mais en fait il y a encore d'autres ouvrages. Et on en prévoit d'ailleurs deux qui vont sortir en librairie bientôt, Le Jaune de Benoît Pretzel et puis Les Aventures de la Vie d'Alex Chauvel. Ça ce sera notre premier grand ouvrage. Pour l'instant, on a sorti des petits ouvrages qui sont plus ou moins l'équivalent d'une trentaine de pages de bande dessinée. Là on sort un gros ouvrage, c'est quasiment 1000 écrans de bande dessinée, donc c'est vraiment un travail vraiment vraiment conséquent, ça prend vraiment à la fois du temps à lire et du temps à faire, mais c'est surtout un ouvrage un peu ambitieux pour une structure comme la nôtre. Et pour accompagner ça, et puis pour un peu faire partager un peu l'émulation artistique qu'il y a autour de cette collection RVB, on aimerait beaucoup proposer des abonnements. Voilà. Et pour proposer des abonnements, bah, de nouveau, il faut demander à des développeurs de travailler assez vite. C'est beaucoup de temps de travail, et puis ils nous en ont offert déjà beaucoup, mais là, on a besoin de pouvoir les payer. Voilà.
Ouais, et je me permets de faire une petite...
Oui, Oriane.
Une petite incartade. Mais du coup, on aurait pu essayer de proposer un site qu'on ferait nous-mêmes qui serait lisible sur un écran sur 40. Et l'idée de bosser avec des développeurs, c'est aussi d'offrir une qualité de lecture qui va être la même, quel que soit l'écran, quelle que soit la résolution, le navigateur. Et ça, c'est un travail technique qui est d'une complexité infinie. Et on a fait le choix aussi d'aller vers quelque chose de professionnel, de bosser avec des vrais professionnels de ça.
Ouais.
Pour avoir le site le meilleur possible, pour avoir la qualité de lecture la meilleure possible pour les ouvrages. Et donc, ça a un coût, effectivement, qui est lourd pour une très petite structure, après, qui n'est pas non plus incroyable et qui va être amorti aussi avec le temps. Mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin de faire cette campagne de prévente d'abonnement. C'est aussi une manière, voilà, d'avoir une qualité de site qui soit maximale. C'est assez important pour la lecture, de la même manière que si on publie un livre et qu'on le fait imprimer, on veut que la qualité de l'objet elle soit maximale, quoi.
Ouais.
Vous avez estimé à combien vous auriez besoin de...
Oui, alors pour lancer le système d'abonnement et puis faire une première mise à jour du site, on aurait besoin de 4 000 euros. Voilà. Ça prend en compte le remboursement de la plateforme de voilà, et puis les droits d'auteur aussi, mais voilà, c'est la somme dont on aurait besoin. Pour l'instant, on a récolté la moitié, plus ou moins.
C'est jusqu'à quand?
Et il nous reste 13 jours à partir d'aujourd'hui. Jusqu'au 9 octobre.
J'aurai le temps de le redire la semaine prochaine encore.
Super, ouais.
Donc c'est édition Hécatombe et collection RVB.
Voilà, on vous propose de devenir grand fondateur de la collection RVB, d'être un des piliers de cette collection, et puis de nous aider à passer un cap pour avoir une collection plus accessible et puis aussi plus ambitieuse en même temps.
C'est-à-dire que vous êtes déjà une dizaine dans l'équipe, et s'il y avait tout à coup un grand donneur, un grand mécène qui arrive, vous prendriez d'autres auteurs, ou pour vous, là, vous êtes un groupe d'amis, vous connaissez, vous voulez surtout développer le site?
Oui aux deux, on s'aime bien, on s'apprécie beaucoup, et puis on a envie de développer le site et puis la structure, mais c'est aussi une collection qui est ouverte pour n'importe quel auteur, parce que, comme je disais avant, il n'y a pas énormément de possibilités pour un auteur, quand il veut être édité en bande dessinée numérique, de travailler avec un éditeur. Et donc, quand on a lancé le projet, on s'est aussi dit, mais en fait, c'est aussi un espace qui doit être ouvert, parce qu'il y a d'autres gens, en fait, qui ont envie de faire de la bande dessinée
donc
numérique.
Donc, on peut te contacter.
Ouais. Complètement. Oui,
si on est auteur BD, on imagine quelque chose en numérique.
Ouais, tout à fait. Il y a souvent des gens qui me contactent. Des fois, je reçois des projets qui sont pas compatibles avec ce qu'on fait, parce que nous, on s'intéresse. Ce qu'on défend, c'est vraiment la lecture, une qualité de lecture. Donc, on va pas aller trop vers des projets transdisciplinaires trop axés par exemple, on va pas faire d'animation, on fait vraiment de la lecture, on reste dans ce cadre-là. Après, bien sûr, si un auteur a un projet incroyable avec un petit peu d'animation, on peut en parler, mais nous, on reste vraiment, donc on a quand même une ligne éditoriale comme ça, et puis un comité de lecture, mais en tout cas, on est ouvert à toutes les propositions.
Est-ce que vous pouvez la définir un peu, cette ligne, ou c'est difficile, c'est en groupe, où vous dites, là, il y a un coup de cœur, tiens, moi aussi, ça me parle, on va choisir celui-là.
Non, la ligne, je pense que c'est comme tout éditeur, c'est souvent des coups de cœur. Tout d'un coup, on trouve une œuvre, une proposition ou un auteur qui a quelque chose de particulier, une bonne idée, et puis on se dit ah oui, ça j'ai absolument envie de le faire, et puis on le fait. Après. Moi, je trouve toujours dur de fixer des repères très précis pour une ligne éditoriale, parce qu'en général, droit derrière, eh ben, on découvre un nouveau truc et puis on a envie de faire exactement le contraire. Donc, il faut quand même se laisser de la marge. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment, je pense, l'intérêt pour les formats de lecture, c'est-à-dire avoir des grandes cartes dans lesquelles on se déplace, avoir des petites cases qu'on se fait défiler, ce genre de jeu. Pour l'instant, c'est ce qu'on a beaucoup fait avec la collection RVB, puis là dans les nouveaux ouvrages, Le Jaune de Benoît Pretzel, et puis Les Aventures de la Vie avec Alex Chauvel, c'est de nouveau des formes qui sont beaucoup utiliser et puis détourner, c'est vraiment un langage qui se développe autour de ces choses-là. Donc je serais tenté de dire que ça fait partie de la ligne éditoriale.
Dans vos projets de bande dessinée ou dans ceux qui ont déjà été édités, est-ce qu'il y a un élément pédagogique ou c'est vraiment des histoires un petit peu en tout genre, ou vous avez aussi d'autres démarches plus dans la
connaissance ? C'est vraiment plutôt des ouvrages de fiction. Il n'y a pas de journalisme ou de trucs comme ça qui sont assez qui se font beaucoup dans la bande dessinée actuelle, mais c'est vraiment pas le créneau de la collection.
Par exemple, Le Jaune de Benoît Pretzel, là je vois la petite carte qui est dessinée, donc qui avec le code, je vois ça, je me dis, alors, est-ce que c'est un polar parce qu'il y a des pistolets
Oui, c'est ça. En fait, c'est notre première adaptation en bande dessinée numérique d'un livre. En fait, c'est un roman de Maurice Leblanc avec, je ne sais pas si je dois le révéler, mais il fait partie de la série de la série des Arsène Lupin, voilà. Et puis là, il prend vraiment une œuvre qui est une œuvre littéraire et il l'adapte en bande dessinée numérique. Donc c'est tout un travail sur le langage. Il réécrit complètement l'histoire, il en fait qu'à sa tête. Et même politiquement, il transforme le livre en quelque chose qui correspond probablement plus à ses positions politiques à lui. Et puis je pense que c'est intéressant pour ça, parce que c'est vraiment c'est une réécriture assez maligne qui joue vraiment avec, à la fois avec les codes du polar, mais aussi avec le personnage principal, et puis avec surtout ce qui est assez marquant, c'est qu'on reste vraiment, pour ceux qui connaissent Benoît Pretzel, on reste vraiment dans l'univers de cet auteur là et puis tout d'un coup, c'est cet univers là qui se développe dans un langage nouveau. Voilà. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour ça. Mais bien sûr, il y a des considérations politiques. Je ne pense pas que ce soit de la pédagogie non plus. Je pense que c'est avant tout des œuvres d'auteur. Voilà.
Buster Yanez, Usini Comics, là, on part dans un univers assez délirant avec ce farfelu Mickey Chauve. On dirait, je ne sais pas, il a des grands yeux énormes et une bouche rouge gigantesque avec des gants. C'est peut-être les gants qui me font penser à Mickey, les gants blancs, qui a un côté un petit peu dessin ancien. Il y a des rappels, après des codes, des analyses spécifiques de la bande dessinée que vous reconnaissez plus facilement en faisant partie de ce milieu.
Oui,
j'y
joue beaucoup avec des codes de bande dessinée populaire un peu ancienne. C'est vraiment ancré dans l'héritage d'une tradition de bande dessinée underground aussi.
Le punk, on dirait un peu Franck Margerin ou ceux qui parlent un petit peu des rockers, des looks un peu comme ça. Et puis peut-être aussi un univers fanzine.
Oui, complètement.
C'est vos inspirations, on en parlait tout à l'heure.
Oui, Buster Yanez, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de fanzines, qui faisait partie à l'époque d'un groupe avec Willy Tenia et Lila et d'autres, et Matt Conture, qui faisait beaucoup de bandes dessinées collectives. Ils faisaient des tables, maintenant ils en font un petit peu moins, mais donc il vient vraiment de là aussi, je pense. Et là, dans Usini Comics, il parle de la vie du quartier, d'un quartier à Genève, autour de l'usine. Donc c'est un quartier assez vivant, avec beaucoup de gens qui viennent en concert, qui ont une juste vie nocturne ou une vie diurne autour d'un centre culturel autogéré. Voilà. Et c'est plein de petites anecdotes qu'on va pouvoir trouver en explorant une carte, la carte de cette place et de cette rue, dans laquelle on peut se balader et puis cliquer sur des petits détails qu'on remarque.
Alors, on a rendez-vous sur l'appel aux dons sur votre site, du coup.
Mm-hmm. Collectionrvb.com.
Voilà. Et puis sinon, à part le virtuel, est-ce que les auditeurs ont des moments pour vous voir en chair et en os ? Vous allez peut-être avoir un événement ? Vous y pensez un petit peu pour... Vous aimez bien rester caché, anonyme?
Ça dépend, on aime bien qu'on nous invite à faire des trucs. Après, nous, on provoque pas forcément les occasions de rencontrer les lecteurs, mais c'est toujours hyper intéressant, hyper agréable. Donc peut-être qu'il faut qu'on essaye d'organiser un événement à Lyon, c'est une bonne idée, mais on verra ça après avoir fini notre campagne de prévente.
Tout à fait. Et la campagne, elle est accessible sur le site Ulule, voilà, collection RVB.
Et surtout, on a oublié de dire que l'abonnement coûtait 2 € par mois. Pour un an, donc notre contrepartie de base, c'est 24 € par personne, c'est 25,50 avec les frais d'envoi, puisqu'il y a une carte qui va avec. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est, bon, il faut payer 24 € d'un coup, c'est un peu le point négatif de la campagne de prévente qui doit être bouclée dans sa totalité. Mais l'idée, c'est de faire un abonnement à 2 € par mois, ce qui est une somme qu'on espère pas énorme pour pouvoir lire plein de bandes dessinées numériques et essayer de faire découvrir un peu les possibilités de ce médium et de ce support qui est hyper riche, quoi.
Et puis pour permettre aussi de développer la bande dessinée numérique un petit peu en dehors des plateformes où on la trouve essentiellement en ce moment, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire un petit pas de côté et puis de pouvoir se réapproprier les outils sur lesquels on lit pour pouvoir travailler la qualité de lecture, mais aussi pour des questions d'indépendance, parce qu'on n'a pas forcément envie tout le temps de créer des contenus pour des structures qui ne sont pas des structures qu'on a envie d'encourager dans l'absolu. On aimerait bien construire quelque chose par nous-mêmes, et puis je pense qu'il y a une vraie urgence. Il y a une vraie urgence. Des fois, je trouve effrayant le rapport qu'on a aux écrans. On a complètement laissé cet espace à des entreprises et des structures dont on se rend compte aujourd'hui des défauts et des méfaits. Et je pense que vraiment, il y a une urgence en ce moment, c'est de se réapproprier ces espaces. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec la collection RVB.
Donc merci beaucoup à tous les deux, il est l'heure de se quitter. Alors quelques petites annonces pour terminer, que je n'ai pas eu le temps de dire au début d'émission. Il se passe vraiment beaucoup de choses à Lyon en ce moment, donc il y a la Biennale Hors Normes. Vous avez des informations, ils organisent aussi avec... ils sont annoncés sur le Topo, le magazine de la médiathèque, sinon vous tapez Biennale Hors Normes. Alors sur l'info que j'ai notée, c'est Biatrix qui me l'a envoyée. Donc Jean-Marc Duchesne à l'Université Lyon 2, Palais Hirsch, les Hirondelles, ouverture de 13h à 19h ce soir, donc jusqu'à 19h. Voilà, et puis moi j'y vais lundi vers midi, donc ce sera aussi ouvert lundi plusieurs jours pour cette installation sonore. Je vous le rappelle encore, le Chant des Pierres, c'est ce week-end, c'est dès ce soir à Saint-Jean-de-Vigne. Même le camping est gratuit et l'entrée à prix libre. Donc il y a ces 3 jours de festival, ça s'appelle le Chant des Pierres. Alors également, bientôt, le feu du 17 au 20 octobre, effondrement imminent, spectacle théâtral musical cycle effondré du 7 au 16 octobre. Donc il y a des éléments qui se trouvent au Croiseur, c'est dans plusieurs lieux. Donc il y a l'Aquarium, la Maison de l'Écologie, le Chalala, tiens. Tous rejoints, la MJC Mon Plaisir, Librairie L'Esprit Livre, Bar Fédératif, Les Clameurs, Les Halles de Faubourg, Librairie La Griffe, Terre des Livres et Chromatique Le Croiseur, tout ça sont des partenaires du Théâtre du Brut, spectacle créé en partenariat donc avec l'Escale, l'Espace Sarto, le Plateau, la MJC de Vauvelin. Tous les gens sont connectés, comme on peut le constater, donc du 17 au 20 octobre au Croiseur, donc c'est du jeudi 17 au samedi 19 à 20h30 et dimanche 20h à 17h, Théâtre du Bruit, spectacle théâtre musical Là le Feu, et une heure avant et après chaque représentation. Vous pouvez aller boire un verre et vous restaurer. Et puis, il y a l'exposition de Lily Zaza. Je vous invite à aller voir son site, Lily Zaza. l'apocalyptique. Voilà. Et puis toutes les autres infos, parce qu'il y a un grand programme, donc je pourrais pas tout vous détailler, il me reste une minute. Donc la revue Cabaret, la revue poétique, c'est la revue d'automne 2019, Into the Wild, de Alain Crozier, éditeur. Donc c'est aux éditions Le Petit Rameur, 31 rue Lamartine à La Clette. Vous pouvez vous abonner pour 3 euros sur ces recueils de poèmes de différentes poétesses. Voilà, revue Cabaret. Et puis il y a également Michelina, son nom d'artiste c'est Amorem.